Vous avez une question sur le logement, l'Adil 48 y répond sur 48FM.
Adil 48,
l'agence départementale d'information sur le logement.
Alors la question, en a-t-il le droit ?
Effectivement, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, nous sommes là, vous pouvez nous contacter par courrier, par mail ou passer à l'agence, c'est encore le mieux.
Ce n'est que le logement, mais tout le logement.
Tout de suite, la minute de l'Adil.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre chronique logement, la minute de la DIL, où chaque semaine une juriste de l'agence départementale d'information sur le logement répond à l'une de vos questions sur le thème du logement et de l'habitat, des thèmes nombreux et variés. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez poser une question, vous pouvez adresser un mail à contact.adil48@orange.fr. Aujourd'hui, c'est une question sur l'achat en couple et c'est Aurélie Pouligala, juriste à la DIL de la Lozère qui vous répond. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors la question, nous allons acheter un logement à deux avec mon compagnon. Nous ne sommes ni mariés ni pas. C'est quelles précautions devons-nous prendre pour nous protéger l'un l'autre ? Ben, se paxer ou se marier.
Oui, alors oui, j'ai envie de dire oui, mais voilà. À défaut, si vraiment on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vrai que c'est une bonne question dans la mesure où, que ça soit en matière de fiscalité, c'est-à-dire pour l'impôt sur le revenu, que ça soit en matière de succession, de donation, les concubins, ils sont vraiment considérés comme des étrangers l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'en matière juridique, deux concubins, c'est pas plus que deux amis, voilà. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on n'a pas de relation particulière d'un point de vue juridique. Et donc, soit on va essayer de s'arranger, comme la loi ne prévoit aucune solution particulière à l'achat entre concubins, on va peut-être envisager ce qu'on appelle une convention d'indivision, c'est-à-dire déjà se donner un peu une feuille de route. Soit, eh bien, on va acheter en indivision, c'est-à-dire le régime par défaut. Quand on n'est pas marié et qu'on achète, c'est un achat en indivision. C'est le même régime juridique que celui dans lequel on se retrouve quand on hérite d'une personne décédée et que cette personne, voilà, j'hérite de mon papa, par exemple, on était plusieurs frères et sœurs, on va tous être en indivision sur ce bien jusqu'à ce que la succession elle soit réglée. Là, on est vraiment dans la même situation. J'achète avec mon concubin, j'achète en indivision. Et cette situation va effectivement pouvoir entraîner des complications, notamment sur des moments un petit peu critiques, c'est-à-dire si l'un des deux concubins décède ou au moment d'une séparation. C'est là où il va falloir faire attention et où on va pouvoir se rendre compte que finalement, l'achat en indivision, ça a des limites. C'est-à-dire qu'au décès de l'un des deux concubins, même si ça fait très longtemps qu'on vit en concubinage, qu'on a des enfants en commun, il n'y a pas une protection du concubin survivant. C'est-à-dire que la personne qui est décédée, ça va être ses héritiers directement, donc ses enfants s'il y en a, sinon bah, ses parents ou ses frères et sœurs, qui vont récupérer sa part dans le logement. Et donc le concubin qui est survivant, il va se retrouver en indivision avec alors peut-être ses enfants. Là encore, ça va, mais peut-être ses beaux-parents, ses beaux-frères, ses belles-sœurs.
Oui, ça peut être vite compliqué.
Voilà, ça peut être vite compliqué, d'autant plus qu'il faut se dire que dans la mesure où chacun a une part du logement, chacun est censé contribuer aux charges du logement, aux travaux. Peut-être que les beaux-parents, ils n'ont pas envie de venir payer des charges sur le logement qui est utilisé par le gendre ou la belle-fille. Voilà. Donc, il faut se dire que c'est un peu critique comme situation. Pour sortir de là, il faut que le concubin survivant il soit en mesure de racheter finalement la part de son concubin qui est décédé pour qu'il ait la totalité du logement à sa propriété. Hein. Et sinon, eh ben, on reste en indivision ou alors, si l'un des indivisaires a pas envie de rester dans cette situation, il peut forcer l'ensemble des indivisaires à vendre le logement pour récupérer sa part en argent, et puis dire on règle la situation, moi je veux pas rester en indivision. Puisque ça, c'est la loi qui nous le dit, le régime de l'indivision, c'est pas censé être un régime qui est fait pour le long terme, justement, puisqu'il a certaines limites, c'est censé être un régime transitoire, donc on peut pas forcer quelqu'un à rester en indivision. Si j'ai envie de sortir dans l'indivision, on vend et on se partage la somme en fonction des quotes-parts de chacun. Donc ça, c'est la situation de base. Idem, en cas de séparation de concubins, on va avoir plusieurs solutions. On va avoir des solutions à l'amiable, c'est-à-dire soit on décide de vendre le bien, et puis chacun récupère la part qui lui revient. Soit celui qui a envie de garder le logement est en capacité financière de racheter la part de l'autre. Jusque-là, c'est des solutions où, j'ai envie de dire, tout finit plutôt bien. Mais si on n'est pas d'accord, ça va aller jusqu'au juge. C'est le juge qui va prononcer la vente du logement et ça va être une vente forcée. C'est-à-dire que même si l'un des deux a envie de garder le logement parce que c'est le logement familial, etc., il n'a pas plus de droits que l'autre sur le logement s'il n'est pas en capacité de racheter. Donc vraiment, l'indivision, c'est effectivement pas très sécurisant, ni d'un point de vue séparation pour garder le logement, ni d'un point de vue succession sur le droit au logement. Donc on peut avoir éventuellement une hypothèse dérogatoire qu'on voit beaucoup quand même, c'est la création d'une SCI, une société civile immobilière, où là finalement, même si on a un formalisme qui est plus lourd et qu'on a un certain coût pour la création de la SCI, ça va être une solution qui est quand même plus organisée que l'indivision. Les deux concubins vont créer la SCI, et c'est la SCI qui va acheter le bien, et les concubins, eux, ils vont être propriétaires de parts dans la SCI, comme dans une autre société, chacun va avoir un nombre de parts dans la SCI.
Il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui créent une société pour acheter un logement, un couple.
C'est peut-être pas majoritaire, mais c'est une solution qui est quand même assez répandue quand on veut se sécuriser, et notamment quand c'est d'un point de vue patrimonial un peu complexe, c'est-à-dire si on a déjà été marié, qu'on a déjà eu des enfants d'un premier lit, on appelle ça des enfants d'un premier lit, et que je suis à nouveau en concubinage avec quelqu'un d'autre, etc. Enfin, après, c'est d'un point de vue successoral, ça peut vite être très compliqué. Et oui. Donc, quand on veut sortir un peu le logement commun du patrimoine à partager, eh ben on peut monter une SCI, comme ça vraiment c'est un patrimoine à part et on règle ça à part du reste.
D'accord.
Voilà. Et là, en cas de séparation, ben c'est relativement plus simple puisque on est sur une question de rachat de parts sociales. En cas de décès, c'est pareil, les parts reviennent aux héritiers, mais on peut poser des limites, notamment avec, je pense à une clause d'agrément, c'est-à-dire une clause qui prévoit qu'on peut limiter qui va entrer dans la société. Voilà, ça peut être une solution intéressante. De toute façon, sur les avantages de la création d'une SCI, c'est hyper intéressant d'en discuter avec son notaire au moment du projet d'achat. Voilà.
Oui.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est si on achète non marié, non paxé, je suis sur un régime qui est l'indivision, qui est peu sécurisant. Donc si j'ai vraiment pas envie de me marier ou de me paxer, il faudrait essayer de réfléchir à des solutions un peu dérogatoires aux règles de droit commun parce que c'est pas très sécurisant. Voilà.
D'accord. Comment la DIL peut aider dans ces cadres-là ?
Bah, nous, on peut justement reprendre, faire une consultation juridique préalable à l'achat pour expliquer les tenants, les aboutissants, justement, en droit de la famille, en droit des successions, réexpliquer tout ce qu'on vient de discuter, mais plus en profondeur, et puis vraiment en fonction de la situation de la personne. C'est ce qu'on disait. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui vient nous voir qui a déjà eu un premier enfant, on lui expliquera dans sa situation, vraiment, à lui, comment ça pourrait se passer s'il lui arrivait quelque chose, etc.
Premier enfant d'un premier lit.
Enfant d'un premier lit.
Voilà, c'est ça. Merci Aurélie. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la DIL de la Lozère, rubrication réponse, en podcast sur les deux sites internet. Pour contacter la DIL de la Lozère, un numéro, le 04 66 49 36 65. Le mail contact.adil48@orange.fr. Votre adresse, c'est le 12 bis avenue Foch. L'adresse de la DIL, Aurélien, pas la vôtre. et vous pouvez venir tous les jours, sauf le vendredi après-midi ou dans l'une de vos permanences tenues les mercredis. Où ça exactement?
À Langogne, Marvejol, Florac et Saint-Gély.
Allez, et la DIL qui est aussi sur Facebook.
On est au goût du jour.
Allez, parfait. Merci Aurélie.
À bientôt.